Jean-Baptiste Sourou est journaliste à Radio Vatican. Il travaille au sein de la rédaction africaine francophone. D'origine béninoise, il a publié plusieurs ouvrages sur les rapports de l'Église et de l'Afrique, notamment « Ecclesia in Africa, à la lumière de l'esprit d'Assise », essai de lecture du premier synode pour l'Afrique, en marche vers le second. Il retrace pour nous le contexte africain de ce premier synode.
Les années 1990, on peut les considérer comme le temps d'une renaissance en Afrique. Si en 1960, c'était donc l'année des indépendances, et puis les indépendances en général, c'était le travail des intellectuels. Mais en 1990, ou à la fin des années 80, la population africaine voulait un changement. Alors, il y a eu ce qu'on appelle les conférences nationales des forces vives dans plusieurs pays africains. C'est-à-dire vraiment qu'il y avait une certaine effervescence en Afrique. De l'autre côté aussi, il faut voir que en Afrique du Sud, il y a eu la libération de Nelson Mandela le 11 février, ce dimanche-là. Tous, on était, bon, ceux qui avaient la télévision, mais moi, je n'avais pas la télévision, j'étais accroché à la radio. Et on suivait en direct cette libération de Nelson Mandela, 11 février 1990. Dans le même temps, en Algérie, en 1992, le processus électoral en Algérie voyait clairement la montée du Front islamique du salut. Et le président Chadil Ben Jedid a décidé de mettre fin à cette montée. Et donc, les élections ont été bloquées, etc., etc. À partir de ce moment-là, l'Algérie a vécu des moments de plomb, de terrorisme, etc., etc. Et dans le même temps, l'économie était par terre et donc là, on a commencé à signer des accords avec le Fonds monétaire international et les programmes d'ajustement structurel, les fameux PAS en Afrique dans les années 90. Et en même temps aussi, il y avait déjà des signes avant-coureurs du génocide rwandais. On pourrait les considérer comme les années où l'Afrique vivait un clair-obscur de son histoire. Et dans tout cela, l'Église en Afrique a beaucoup accompagné la société civile en Afrique. Si nous prenons la plupart des conférences nationales des forces vives, le cas du Bénin, avec Monseigneur de Souza, en RDC, l'actuel archevêque de Kinshasa, au Gabon c'était un évêque, au Togo c'était Monseigneur Podjo, l'archevêque de Lomé en ce moment-là. Donc voilà un peu le contexte social, économique de l'époque.
Alors justement, du point de vue de l'Église, à quel type de nécessité va répondre cette assemblée spéciale ?
Pour Jean-Paul II, c'était surtout pour étudier de façon collégiale, donc entre pasteurs, les problèmes liés à l'annonce de l'évangile sur le continent africain, dans le but donc de favoriser un regain dans la solidarité entre les pasteurs de l'Église en Afrique.
Et quel rapport Jean-Paul II, justement, entretenait-il avec l'Afrique à cette date précise ?
Vous voyez, de 1978, octobre 78, à 1993, donc à la veille du synode, Jean-Paul II s'est rendu déjà plus de 10 fois en Afrique et il a visité presque 38 pays. Et déjà, certains pays comme la Côte d'Ivoire l'ont déjà reçu 3 fois. Dans tout ça, c'est un Jean-Paul II qui a été sur place en Afrique, qui connaissait les réalités du continent africain, qui a eu le temps de recevoir au Vatican les évêques africains. Et puis, on connaît bien le style de Jean-Paul II quand il va sur place. C'est quelqu'un qui va visiter les familles, etc., etc. Donc, tout ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui connaissait très bien la réalité africaine.
Alors, quelles seront les grandes lignes de ce premier synode sur l'Afrique ?
Bon, l'Église en Afrique et sa mission évangélisatrice vers l'an 2000, vous serez mes témoins, ça c'est le thème. Et puis, donc, il y avait 5 sous-thèmes. L'annonce et l'évangélisation, le problème de l'inculturation, le dialogue, justice et paix et les moyens de communication. Mais dans tout cela, pour résumer, je pourrais dire que le synode de 1994 était comme une relecture du baptême de l'Afrique. C'est-à-dire permettre à l'Afrique de s'asseoir pour dire « Église en Afrique, tu as reçu ton baptême, mais qu'est-ce que tu en as fait ?» C'est comme si les chrétiens africains avaient réfléchi, n'est-ce pas, sur le don de la foi, le don du baptême, pour voir un peu comment ce don-là a été vécu et comment on pourrait vraiment revivre mieux ou s'approprier vraiment, faire sien encore ce don.
Dans quel état d'esprit Jean-Paul II aborde-t-il ce synode et comment va-t-il le vivre ?
Depuis la fin du Concile Vatican II, dans les années 60, les évêques, les théologiens africains voulaient une réunion de pasteurs pour réfléchir sur les questions concernant l'Afrique. Mais Jean-Paul II est devenu pape en 1978 et il a pris tout ce temps-là aussi pour se préparer. Donc c'est quelqu'un, non seulement qui connaissait la réalité, mais il voyait aussi que le temps était venu, qu'on leur donne, n'est-ce pas, cette possibilité de s'exprimer et d'étudier ensemble. Parce qu'un synode, c'est toujours un événement ecclésial. Ce n'est pas seulement un synode pour les Africains. Non, c'est un synode des évêques. Non, c'est toute l'Église entière qui se réunit pour réfléchir autour d'un thème bien donné. Donc Jean-Paul II l'a vécu avec beaucoup d'espérance et en même temps, vous savez qu'en 1994, les Rwandais vivaient un des drames les plus horribles, n'est-ce pas, de leur histoire. Et donc, malgré tout cela, Jean-Paul II voyait que ce synode pouvait redonner quelque chose de nouveau à l'Afrique. Et le génocide ou le mal ne pouvait pas détourner notre attention ou faiblir notre espérance.
Alors, en quoi sa réponse au synode, autrement dit l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa, va répondre aux attentes des pères synodaux?
Ecclesia in Africa, c'est tout d'abord les propositions des pasteurs africains et à la base, il faut dire aussi qu'il y a eu les lineamenta. Donc, les populations africaines ont pu s'exprimer déjà. Et c'est cela que les pasteurs ont pu dire et partager avec l'Assemblée synodale. L'image de l'Église famille de Dieu, c'est une image qui vient de l'Afrique. Ce n'est pas Jean-Paul II qui l'a inventée. Donc, quelque part, c'est la réalité de l'Afrique qui était présente dans ce document post-synodal.
Alors, quelle sera la réception de Ecclesia in Africa en Afrique?
Ecclesia in Africa a été reçue surtout avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Si on prend par exemple la réalité des communautés ecclésiales de base ou des communautés ecclésiales vivantes, la commission justice et paix en Afrique, une nouvelle place qui a été donnée aussi à la femme dans l'Église en Afrique, la liturgie, les moyens de communication sociale et peut-être aussi une redécouverte aussi de la parole de Dieu.
Pour vous, qu'est-ce qui motive, 15 ans plus tard, l'ouverture du deuxième synode pour l'Afrique?
Ecclesia in Africa, où le premier synode a été un moment pour dire, nous avons reçu le baptême, mais qu'est-ce que nous avons fait de ce baptême-là? Réfléchissons, le don que les missionnaires nous ont apporté, le don que Dieu nous a fait par le baptême. Donc, je crois que ce nouveau synode va permettre vraiment à l'Afrique maintenant, à l'Église en Afrique, d'être présente là où les Africains sont en train de souffrir, pour que l'Église puisse vraiment donner une impulsion nouvelle à l'Afrique. C'est-à-dire que ce synode, à mon avis, c'est le synode de l'âge adulte de l'Afrique. C'est le synode de l'âge adulte de l'Église en Afrique.